Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est un plaisir. Ici les informés de 18h à 19h30, justement, c'est ici que ça se passe, pour commenter, analyser, décrypter l'actualité, chers amis auditeurs, auditrices. Et bien au sommaire de cette émission, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout d'abord avec, vous savez, les sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur cette riche actualité, notamment l'assurance chômage qui commence évidemment à provoquer débat, puisque justement, nouvelle réforme pour les demandeurs d'emploi, indemnisation. Pourquoi une réforme et ce qui va changer? Ensuite, nous reviendrons sur Jean-Christophe Lagarde qui est placé en garde à vue dans l'affaire des fausses accusations contre Corbière et Garrido. Oui, parce que le président de l'Union des démocrates et indépendants est visé par un policier en poste à Drancy par une plainte d'un journaliste du Point pour abus de confiance. Bon, bref, ça c'était il y a quelques mois. Mais souvenez-vous, eh bien, l'affaire avait commencé à prendre forme. Autre sujet, c'est le prix du carburant. Les stations de Total, elles sont prises d'assaut. Oui. Alors, peut-on parler de rupture de stock? Notamment, vous savez quoi? Eh bien, dans le sud, où on nous écoute notamment, eh bien, j'aimerais entendre les auditeurs. Est-ce qu'ils craignent une pénurie, une rupture de stock dans les stations? C'est la raison pour laquelle il y a eu, mais vraiment, invraisemblablement, certains nous ont dit qu'il y a eu une prise d'assaut dès ce matin. Ce matin, toutes les stations de Total ont été prises d'assaut. Eh bien, on en parle et on s'attardera là-dessus pour mieux comprendre. Le plafond de verre, chers amis, les entreprises publiques, les entreprises privées, le paysage audiovisuel, bref, eh bien, ce sommet des inégalités persiste. Ça m'énerve quand j'entends ça encore en 2022. Franchement, très honnêtement. On l'a dit à maintes reprises, plusieurs fois. Peut-on briser ce fameux plafond de verre? Mais franchement, disons-le clairement. Ce débat, on va le poursuivre ad vitam aeternam? Très sérieusement. Bon, et ben on en parlera avec notre invité tout à l'heure que vous connaissez, qui est aussi une signature ici dans Les Informés. 18h30, d'abord, vous les auditeurs, 01 53 48 3000, j'aimerais vous faire écouter tout à l'heure un court extrait chez nos confrères, la radio France Inter, où il y a un témoignage ce matin. Je parlais avec des journalistes, confrères, et on avait échangé sur la question du plafond de verre. Et beaucoup de gens comme vous, comme moi, issus de la diversité, sont contraints de plus en plus de changer, paraît-il, leur prénom. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ils mettent Adil Farkan, eh bien, il n'est pas pris. Et quand il met Pascal Farkan, il est reçu. Bon, eh bien, le débat rejaillit. On en parlera avec vous, chers amis auditeurs, partout en France. Pour vous écouter au 01 53 48 3000 à 18h30, c'est le fameux quotidiennement, le Quoi de Neuf. Et c'est avec le docteur Majid Seoussine et son pudding. Il a intitulé le pudding. Vous savez, le pudding, on met tout. Mais là, il a tout mis sur l'actualité. Il va parler, il va faire un petit cocktail. Il nous a fabriqué un cocktail d'actualité. Ensuite, c'est le face-à-face. Le face-à-face, alors, chers amis auditeurs, ils sont deux, trois, notamment avec un journaliste que je vais accueillir aujourd'hui, que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Thierry Vincent et il va nous parler des Black Blocs. Il a écrit un livre là-dessus, justement. Et le face-à-face, c'est de 18h30 à 19h30. Les informés, c'est tout de suite. Et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et je vous attends notamment au standard, au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert et on vous attend, chers amis. Pourquoi? Parce que je voudrais vous entendre partager avec moi. Est-ce qu'il vous est arrivé de changer vos prénoms sur le CV, justement pour être reçu pour un simple entretien? Un simple, je parle, pas une embauche. Un simple entretien, ça veut dire l'ultime étape, la première étape qui vous permet d'accéder potentiellement à ce fameux sésame, c'est-à-dire l'embauche. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que le constat est amer? Est-ce qu'il est de plus en plus dur? Est-ce qu'il est clairement, est-ce qu'on peut parler de racisme aujourd'hui dans le service public, dans le service privé? Bref, parlons-en tous ensemble. Au 01 53 48 3000, l'interview, c'est parti.
Les informés. L'interview.
Alors que le standard commence à sonner. Oui, parce qu'on va vous prendre au 0153483000. Mon invité aujourd'hui, et après je viendrai parler aussi d'un autre invité, c'est Gamal Abina, commentateur, justement Gamal Abina aussi, un acteur associatif, on le connaît, on ne le présente même plus. Bonjour Gamal Abina. Gamal Abina, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Gamal Abina. D'accord. Vous savez, il y a une actualité qui est présente de plus en plus et beaucoup de la population essentiellement hein, issue des quartiers populaires se pose la question notamment sur ce plafond de verre et notamment ce fameux sommet des inégalités. Alors, comment d'abord le premier constat, 40 ans après, on a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Plafond de verre, discrimination, racisme, jusqu'à quand Gamal Abina?
J'ai envie de dire simplement que ce plafond de verre, on ne le découvre pas, évidemment, tout le monde est au courant de ce que c'est, puisque tous ceux qui sont issus de l'immigration et qui ont un nom à consonance maghrébine sont systématiquement confrontés à cela. C'est-à-dire que l'accès déjà à l'école est difficile, puisque les écoles, en règle générale, les grandes écoles parisiennes nous sont interdites. On se pose la question de la zone géographique, on nous a obligés d'être sectorisés, c'est les lois de Jospin qui ont conduit à ça, ce qui fait qu'on reste entre nous dans des écoles qui ne sont pas forcément les meilleures, et puis surtout, la chose la plus importante, c'est qu'au-delà de l'accès à l'école qui est très difficile, il y a ensuite les diplômes qui ont plusieurs vitesses, et puis il y a la possibilité d'accès à l'emploi. Et là, l'accès à l'emploi, on a essayé tout un tas de méthodes pour éviter de subir ce racisme, qu'il faut bien parler des choses, c'est bien du racisme dont il s'agit, à savoir que quand vous avez un nom d'origine maghrébine ou africaine, vous subissez le racisme, vous êtes racisé. C'est le terme exact qui est dédié. Eh bien, quand on est confronté à ça, alors évidemment, un Européen, lui, quand on lui parle de ça, il a l'impression qu'on exagère. C'est normal, il n'a jamais été confronté à ça ou très peu, ça reste de la théorie, et il pense qu'on est à peu près 5 à 6 millions de personnes, un peu psychiatriquement peut-être recevables dans les hôpitaux, qui racontons la même chose, à savoir qu'on est systématiquement confronté à ces problématiques de décideurs qui refusent, pour des raisons racistes, de nous embaucher, qui refusent de nous attribuer des logements, qui refusent évidemment l'accès aux grandes écoles, et ça, je l'ai entendu en direct live, je vous donnerai une petite indication qui va peut-être pas plaire à tout le monde, qui était très claire, dans une grande école de commerce, c'est pareil, je ne donnerai pas le nom, mais en tous les cas, elle fait partie des trois plus grandes écoles de commerce, et qui a dit une fois, j'ai assisté à une réunion privée, qui a dit, devant un public, une salle complète de futurs diplômés, qu'il n'accepterait en aucun cas de faire ce qui avait été comme expérience conduite par un homme d'ailleurs formidable qui avait ouvert Sciences Po, on s'en souvient. Ils ont dit, nous n'accepterons pas cela parce que nous n'accepterons pas de faire baisser le niveau. Sous-entendu, les gens qui viennent des quartiers populaires, des gens des fils d'immigration, des enfants d'immigration, sont considérés comme des gens, par définition et par peut-être essence, incapables de réussir à avoir un niveau nécessaire pour répondre aux exigences des grandes écoles. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que ce plafond de verre nous est opposé? C'est parce que tout le parcours qui conduit à l'excellence est déjà extrêmement difficile, voire impossible à atteindre, et qu'une fois qu'on y arrive, eh bien, une fois qu'on est le cadre de l'entreprise, là encore, on est confronté à ce plafond de verre. Là encore, on est confronté à des réalités raciales, à savoir qu'ils ne vous le disent pas, évidemment. Bon, j'aime vous dire, je n'aime pas les Noirs ou les Arabes, mais ils vous diront, vous n'êtes pas prêts, pas tout de suite, pas maintenant, les places ne sont pas disponibles, il y a une évolution de carrière, il faut prendre son temps, enfin, c'est toujours le même disque rayé qui ressort.
Gamal Abina, pour quelle raison, notre société a un problème avec les jeunes des quartiers populaires, avec la population des quartiers populaires, et notamment, pour quelle raison ces inégalités persistent à la fois entre les Français issus de la diversité et puis cette société?
Alors, en préambule, d'abord, il faut d'abord dire que la France n'est pas un pays de racistes. Ça, c'est ridicule. Parce que si on dit que la France est un pays de racistes, ça signifie qu'on est aussi raciste que le raciste. En France, les décideurs, ceux qui ont la position dominante, connaissent deux types de racisme, qu'ils confondent très souvent. Le racisme social, donc une classe sociale ne laisse pas la place à des pauvres, et un racisme racial en plus. Donc souvent, les gens issus d'immigration sont de classe sociale inférieure et subissent ces doubles types. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? C'est parce que la France, malheureusement, qui est une ancienne culture de colonialistes, n'a pas été, j'utilise un terme fort à dessein, dépétainisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des procès, Laval, Pétain, Doriot, tous les grands décideurs de la collaboration, ont été poursuivis symboliquement par De Gaulle, mais ils n'ont pas éduqué la population, ces 40 millions d'individus, qui ont quand même été favorables à ces thèses racistes. Et donc, ça n'a pas, il n'y a pas eu d'éducation pour dire aux gens, comme en Allemagne, par exemple, on l'a observé, pour dire aux gens le principe racialisant, c'est-à-dire que les êtres sont supérieurs et inférieurs en vertu de leur couleur de peau, est un principe qui est faux et qui est surtout extrêmement dommageable pour le vivre ensemble, dont on parle beaucoup. Et donc, ils n'ont pas fait cette expérience. Ça n'a pas été réfléchi. Ensuite, il y a eu les guerres d'Algérie qui a accéléré la montée de l'extrême droite et donc la haine de l'immigration, enfin de l'immigration de l'arabe en l'occurrence, ou du noir, et la perte de prestige de la France, et tous ces éléments-là...
Alors, Gamal Amina, je partage entièrement ce que vous nous dites. Sauf que là, évidemment, après nous avoir rappelé l'histoire, ça c'est l'histoire. Aujourd'hui, on est confronté à une réalité. Le pragmatisme, il est où ? On nous a dit pendant très longtemps que les Français issus de l'immigration étaient un atout, justement, pour notre société.
Alors ça, c'est le discours de gauche, qui a été servi comme une sorte de disquerie, là encore. Il disait que l'immigration était une chance pour la France. Ce qui est vrai. La reconstruction du pays s'est faite sur la base des bras des immigrés. Essentiellement, l'après-guerre, beaucoup de Français avaient été tués, évidemment. Beaucoup d'autres étaient surtout dans le tertiaire, dont très peu de travailleurs dans le secondaire, dans le bâtiment. Beaucoup, évidemment, dans l'agriculture, c'est un pays qui est très, très agricole. Mais c'était un secteur qui était littéralement abandonné à l'immigration. Et donc, ça, c'était une chance pour la reconstruction, ça, fait historique. Ensuite, c'est une chance parce que l'immigration apporte une vision, une perspective double. Parce que cette double culture permet d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert sur l'étranger, sur l'international. Mais on a servi ça comme une sorte de principe, une sorte de loi un petit peu de base théorique qui n'a jamais été pratiquée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand on a beau dire des slogans comme une chance pour la France, quelqu'un qui est raciste ou qui considère sans connaître l'immigré, je ne parle pas de ceux qui les connaissent et qui ont des réactions violentes gratuites, mais je parle de ceux qui ne les connaissent pas, eh bien ils entendent ça, ils ont l'impression qu'on leur dit que c'est une chance pour la France, et ils voient quoi à la télévision à longueur de journée ? La violence dans les banlieues, des attentats terroristes, le problème de l'islam, et ils se disent bah, finalement cette chance-là c'est une malchance pour nous. Voilà la réduction des choses. Donc ça c'est un réflexe raciste.
Donc finalement, Gamal Amina, vous êtes en train de parler évidemment dans l'imaginaire des Français, de certains Français, que les stéréotypes pèsent de plus en plus lourd.
Les stéréotypes pèsent et il n'y a pas de pare-feu. C'est-à-dire que c'est difficile de dire à quelqu'un de raciste qu'il faut l'éduquer pour qu'il soit plus raciste. Parce que le racisme, c'est une construction intellectuelle. Ça n'est pas social aussi, mais intellectuel. Donc, de dire à quelqu'un qui se croit supérieur racialement, t'es au même niveau que le noir ou l'arabe, il a du mal, c'est une perte de prestige. Et en même temps, la fabrication des clichés racistes, qui sont nombreux, hein, la réduction des gens de banlieue à trois délinquants, c'est un cliché raciste. Et bien, cette fabrication, sur un plan intellectuel et psychologique, et a été faite depuis 40 ans. Au départ, il n'y avait pas de délinquance dans les banlieues. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que les gens oublient, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a une déshérence. Mais au départ, il n'y avait pas de délinquance. Les gens d'issue de l'immigration se comportaient bien. On trouvait même que leurs parents étaient trop durs avec eux. Voilà ce qui était dit à l'époque. Et aujourd'hui, bon, on dit, banlieue égale délinquance, délinquance égale arabe ou noir, et donc problème. On ne se dit pas, mais ces types-là brillent à l'étranger, et que quand ils arrivent en France, la problématique est franco-française. Finalement, un arabe aux États-Unis, au Canada, ou dans n'importe quel coin du monde, est considéré comme une grande valeur ajoutée.
Et il brille. Et un homme sérieux. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs. D'ailleurs, attendez, on a des chiffres, hein, ça veut dire que de nombreux Français issus de l'immigration, notamment des quartiers populaires, se sont barrés de la France, de l'Hexagone, pour aller briller évidemment à l'étranger. Dernière petite question, Gamal Amina, s'il vous plaît, et je voudrais ouvrir l'antenne et entendre nos auditeurs. Est-ce que vous comprenez celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sont obligés de changer leur prénom pour simplement espérer d'être reçus pour un simple entretien?
Alors ça, c'est consécutif à une autre proposition qui avait été faite et que j'ai trouvé à l'époque ridicule, qui consistait à faire des CV anonymes. Un CV anonyme, d'abord, c'est déjà, quand on fait un CV anonyme, c'est déjà un signe qu'on n'était pas français, hein, c'est déjà un préconçu, on dit, il n'était pas français. Et quand, de toute façon, il arrive à l'entretien d'embauche, eh ben ce type qui est d'origine étrangère sera considéré comme étant un étranger. Donc le changement du nom, c'est une sorte de méthode pour masquer la réalité, c'est-à-dire si on va à un appartement, on change de nom et on envoie quelqu'un à sa place. Mais la problématique qui se pose, c'est quoi ? C'est qu'on peut pas changer de nom pour avoir un travail. Et le travail, c'est ce qui ouvre la porte à tout le reste. Si vous avez un travail, vous avez le logement, vous pouvez vous marier, vous pouvez être sociabilisé. Alors c'est une méthode...
Vous êtes actif.
Oui, on essaie d'être actif, mais je comprends cette méthode, mais encore une fois... ça démontre que toutes les problématiques racistes n'ont pas été réglées et que les gens sont obligés de passer par des méthodes comme ça de traverse pour éviter ça. Un dernier exemple très concret, si vous voulez avoir accès au crédit par exemple, on sait avec des études qui ont été conduites par les Américains qu'on a 8 à 10 fois moins de chances d'avoir accès au crédit alors qu'on a 8 à 10 fois plus de chances d'être contrôlé par la police. Je vais vous dire à quelle perspective on est. C'est catastrophique.
Tout à l'heure, je vous ferai passer une interview terrible, terrible, vraiment. J'invite tous celles et ceux de rester avec nous pour évidemment écouter cela avec beaucoup d'attention. Gamal Amina, merci beaucoup pour cette analyse et ces précisions.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très vite sur notre antenne.
À bientôt.
18h14, on va marquer la première pause pub, mais surtout, il y a Mohamed de Rennes. Bonjour Mohamed de Rennes, ne bougez pas, je vous salue tout d'abord, je vous accueille à l'antenne. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Adil, comment ça va?
Très très bien mon cher Mohamed. Mohamed, restez avec moi, ne bougez pas, et on va parler de ce plafond de verre, et notamment, j'ai un petit élément sonore à diffuser qui va faire froid dans le dos. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, et puis je vous attends au 01 53 48 3000 pour en parler.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Oui, un vrai... Vrai sujet que je mets sur la table. 0153 48 3000 Mohamed de Rennes. Je crois que c'est lui qui est en train de nous rappeler. Il a eu un petit problème de connexion. Chers amis auditeurs, vous savez quoi? Eh bien, on va parler de plafond de verre. Plafond de verre, notamment avec cette question qui persiste, les stéréotypes qui pèsent lourd sur les carrières, parce que beaucoup, comme vous, quand vous êtes embauché, eh bien, vous voyez vos collègues avancer, puis vous stagnez. Vous êtes toujours au même stade, celui du premier. Vous voyez aussi parmi vous, dans votre entourage, eh bien, certains avec beaucoup d'ambition, et puis vous, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, toujours les mêmes questionnements, toujours les mêmes interrogations. Eh bien, on va en parler, chers amis auditeurs. Il est temps de mettre les pieds dans le plat. Il est temps aussi de, à la fois de mettre les pieds dans le plat, mais d'en parler, de dire ce qui ne va pas et ce qui va. D'accord, 01 53 48 3000. Certains aujourd'hui sont obligés de changer de prénom pour obtenir simplement un simple entretien. J'ai pas dit pas parler d'embauche, un simple entretien. Et je trouve, à mon sens, évidemment, cela encore scandaleux, puisque, rappelons-le, ce débat a eu lieu il y a 40 ans, il y a 50 ans, et puis 40 ans, 45 ans après, on en est toujours, évidemment, aux mêmes interrogations, aux mêmes questionnements. Eh bien, Mohamed, qui est avec nous, je vais l'accueillir. Bonjour, Mohamed. Mohamed ? Allô ? Allô, allô ? Mohamed a un problème de connexion. Mohamed ?
Non, je suis là.
Ah, Mohamed, vous êtes là. Bonjour, vous nous appelez de Rennes, mon cher Mohamed.
Oui, bonjour, bonjour.
Je vous écoute, mon cher Mohamed. Alors, parlons-en justement.
Moi, après, ça dépend. Enfin, moi, je suis dans le transport, donc tout ce qui est agroalimentaire, tout ça, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'embauche au niveau de la minorité. Comme moi, il m'appelle Mohamed, j'ai jamais eu de problème à ce côté-là. J'ai un collègue qui est syrien, qui s'était appelé Alain, dans le transport. Il a été embauché, mais bon, ça c'est un problème. Mais moi, je changerai jamais mon prénom. Je m'appelle Mohamed. Et au contraire, c'est la fierté qu'ils aient. Les employeurs, ils aiment bien. Ils aiment bien. Mais au moins, il a sa fierté. Il garde sa fierté. Il n'est pas. Vous n'êtes pas vu pareil si vous changez de prénom. En fait, vous êtes
faible. Oui, je suis d'accord.
Enfin, je sais pas. Vous êtes d'accord avec moi.
Mais donc, le problème. Non, mais en même temps, il y a une réalité.
Il y a une réalité, enfin, peut-être dans les grandes villes. Moi, je vois dans ma ville, enfin, dans ma région, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne pense pas. Dans d'autres radios, j'en parlerai aussi. Non, ils n'en parlent pas. Donc, je pense que tout va bien. Après, c'est dans les grandes villes. Et après, ça dépend des métiers aussi. C'est vrai que nous, c'est un petit métier, transport, c'est rien, quoi. Peut-être dans les grands
vous
métiers.
Vous avez vu
comme,
le nombre d'ingénieurs issus de l'immigration, le nombre d'ingénieurs qui sont obligés de se barrer de la France pour aller exercer leur métier. Est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas normal.
Ben oui.
D'ingénieurs en France, on a besoin des grosses têtes, entre guillemets.
Ben les grosses têtes, elles fuient.
On a besoin. Et c'est vrai qu'ils partent au Canada, la plupart, parce que c'est vrai que dans tous les pays, maintenant, même aux États-Unis, ils recherchent beaucoup de monde dans le transport, dans tous les corps du métier, ils recherchent beaucoup de monde au Canada, surtout. Et ils sont obligés de prendre des migrants, enfin, de tout ça, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre. Ben, tant mieux pour eux, qui prennent tout le monde, quoi. Mais, moi, je pense que c'est l'actualité aussi. Ils veulent pas avoir au téléphone, moi j'en connais, j'en ai parlé, puis ils ont changé de prénom, et ils ont dit, ben, pourquoi tu l'as fait? Ils m'ont répondu, parce que au téléphone, ça fait mal de dire, je veux parler à Mohamed. Vous voyez, ils s'appellent pas Mohamed, mais bon, je prends un exemple, quoi.
Bon.
C'est ça aussi. Ouais. Et l'actualité aussi, avec tout ce qui se passe, et les attentats et tout, ben, tout, c'est tout un mélange, en fait. C'est tout un mélange de tout ça. Des dernières élections, surtout avec un Z que je n'ai pas nommé. Donc vous voyez, il y a tout ça, il y a tout qui joue en jeu. Parce que la plupart des
grands salaires, n'oubliez pas. Des femmes maghrébines, franco-maghrébines. Je ne parle même pas des femmes franco-maghrébines
qui
parfois portent le foulard et qui sont obligées de quitter leur foulard pour...
pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là, je ne suis pas d'accord parce que ce matin, je vous promets, ce matin, j'étais dans un centre commercial. J'ai vu une dame voilée, je ne sais pas si elle est d'origine turque ou algérienne, je ne sais pas, ou marocaine. Elle était voilée, eh ben, elle s'occupe des caisses. Vous savez, les caisses qui n'ont pas de caissière, là, que vous payez automatique, là.
Oui.
Eh ben, elle a le foulard, elle travaille, puis on peut les plaindre dans ma région, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Oui. À l'école,
En région parisienne, je ne l'ai pas vu.
Je suis d'accord avec vous, c'est dans les grandes villes, mais nous, en Bretagne, ça va.
C'est bien en Bretagne. Là, en Bretagne. Les Bretons sont connus pour être plus ouverts.
Bien sûr, bien sûr.
C'est dans leur culture, les Bretons. C'est vrai, la culture des Bretons, c'est l'ouverture. Et c'est une réalité.
Je vous promets, je suis d'accord avec vous pour les femmes voilées, tout ça, dans certaines villes. Moi, ma sœur, elle est voilée, elle travaille à Paris, elle était dans les hôpitaux, et bien, ça se passait très bien. Elle a gardé le voile. Mais enfin, moi, c'est vrai qu'en Bretagne, je vois beaucoup, là, dans l'agroalimentaire, tout ça, les femmes voilées qui travaillent, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, j'ai devait appeler pour lui dire un peu.
On va copier le schéma breton.
Ben, vous allez avoir du mal dans les grandes villes, comme dans le sud. Les grandes villes, moi je suis né ici, moi je suis en France, donc je vois l'évolution qu'il y a, mais j'ai vu le changement, ça se fait. Il y a un grand changement. Je suis pas le seul qui est né ici, va vous dire, il y a un grand changement. Il y a un grand changement.
Et ben merci mon aide de Rennes.
Voilà. Voilà.
Et j'ai l'impression que vous êtes un fidèle.
Voilà. Ah oui. C'est très fidèle, vous écoute souvent.
Eh bien, restez fidèles et merci de votre fidélité.
Merci, Adil, et bonne continuation à vous aussi.
Merci mon cher Mohamed. Merci Karim de Pantin, bonjour mon cher Karim.
Bonsoir Adil, comment allez-vous?
Mais très bien, je vous remercie.
Donc moi je vous appelle parce que je voudrais parler de mon expérience personnelle, surtout de mes enfants, pas moi, parce que moi je suis à l'aube de la retraite.
Parlons-en.
À la veille de... Mais bon, je sais que je vais choquer beaucoup de gens, mais tant pis. Hein,
et bien justement.
On dit ce qu'on pense. Moi, je pense qu'il faut arrêter, je dis bien, il faut arrêter de croire que l'avenir n'a lieu, ne pourra s'établir, se faire qu'en France. Moi, je n'y crois plus. Quand je vois le nombre de gens, mais ça, on n'en parlera jamais dans les médias, qui quittent la France uniquement parce que pour leur sécurité, moi, je connais des femmes voilées qui sont parties parce qu'elles avaient peur de sortir. Nous sommes une communauté, Adil, nous avons peur, nous sommes stigmatisés,
traqués,
nous pratiquons la politique du dos rond, nous rasons les murs. Je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, vous savez très bien que dans les religions monothéistes, par exemple, on est contre l'euthanasie, des choses comme ça. On n'ose même plus le dire qu'en tant que musulman, on est contre l'euthanasie, alors que c'est les autres cultes peuvent le dire.
Je suis d'accord avec vous, Karim. C'est vrai ce que vous dites.
On ne peut même plus enseigner notre religion sous prétexte que ce qu'il y a dans le Coran est contraire aux valeurs de la République. Bah, c'est tout à fait normal, parce que le Coran, il est 14 siècles avant la République. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, si vous voulez. Vous pouvez être musulman en France, mais il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se voit. Et donc, autrement dit, comme me disait un ami juif, il me disait, vous êtes comme nous, il y a un siècle, deux siècles, vous faites la politique du dos rond. Il m'a dit, nous, on a fait la politique du dos rond, on a fait la politique du rasage de mur, on a changé nos noms. Ça nous a pas empêché de finir dans les camps. Hein. Donc moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut arrêter de faire croire aux jeunes, et excuse-moi Adil de te choquer, mais arrêter de leur faire croire qu'ils sont chez eux en France, c'est faux.
Non, dites pas ça.
Vous faites tomber
toutes les valeurs de la République.
Ça suffit avec ça. C'est ça qui nous a foutu dans la main.
Moi, je pense que
il y a un pays, moi je parle pour les Algériens, parce que je pense que ça va être les choses pour les autres pays, mais bon, je connais pas. Mais il y a un pays où il y a 65% de la population qui a moins de 30 ans, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Moi j'ai mes enfants qui y vivent et ils me disent, vraiment c'est un pays en ébullition. S'il vous plaît les jeunes, si vous le pouvez, parce que tout le monde ne peut pas, mais si vous le pouvez...
Bon.
Tournez-vous de l'autre côté de la Méditerranée.
Bon, vous savez quoi ?
Il y a peut-être des choses à faire là-bas.
Eh ben, on va poser la question aux auditeurs. 01-53-48-3000. Partout en France, celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à venir répondre à Karim de Pantin, évidemment, qui soulève une vraie question. Merci, mon cher Karim. Merci à vous. Tout de suite, 18h30. Pas une seconde de plus. Allons-y, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et comme chaque mercredi, c'est le docteur Majid Seoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides, mais également au SAMU. Bonjour mon cher docteur.
Bonjour mon cher Adil.
Plaisir de vous retrouver. Vous savez que les auditeurs de la France entière vous kiffent. Je reçois des SMS, je vous jure, c'est vrai, qui me disent « le docteur, on l'adore ».
Ah, c'est gentil, je les embrasse tous.
Et ben voilà, voilà le petit message, je vous embrasse tous. Alors que le standard est en train d'exploser, 0153483000, et c'est une très bonne chose. Le sujet est important. Alors vous avez décidé de nous signer un petit quoi de neuf autour d'un cocktail d'actualité, ce qu'on appelle un pudding. Je vous écoute.
Tout à fait, mon cher Albi. Ben écoutez, j'ai failli être en retard. J'ai eu du mal à garer mon char à voile.
Il démarre fort, notre toubib. Ben,
j'étais en balade avec... J'étais en balade avec Sandrine Rousseau. On venait de se faire un barbecue. J'ai rien mangé pour m'éviter des commentaires désobligeants. Car voyez-vous, Adil, moi je ne sais pas manger comme un homme déconstruit. J'avale mon repas en 3 minutes, je tâche ma cravate avec les sauces et je me resserre souvent à table. Moi je l'aime bien, Sandrine Rousseau. Elle a remplacé dans mon cœur Marlène Schiappa, que l'on n'entend plus du tout. Marlène, vous me permettez de l'appeler Marlène, Adil, elle avait cette capacité de me détendre les zygomatiques, qui, comme vous le savez, Adil, sont les muscles du rire. Avec Sandrine, vous me permettrez de l'appeler Sandrine, Adil, avec Sandrine, c'est différent. Je muscle les massétaires, car avec elle, je serre les dents. Je vais d'ailleurs finir par me mordre la langue, ce qui serait dommage, car je ne pourrais plus dire toutes ces bêtises. En tout cas, je trouve ces deux femmes très rassurantes. Elles ont des solutions pour tout. Elles savent toujours où est la vérité, ça fait du bien. Bon, à part ça, je pense que l'on peut aussi remercier Vladimir Poutine. Il a réglé un problème énorme qui nous préoccupe depuis des années. Grâce à lui, la question du burkini, c'est fini. Toutes les piscines vont fermer. Il faudrait juste qu'il continue encore un peu son effort pour qu'on rationne le courant dans les mosquées et Darmanin serait content, plus de prêches séparatistes. Ce qui lui éviterait de commettre dans l'emportement quelques bêtises. Je fais quand même attention à ce que je dis, car je ne voudrais pas le fâcher, car il est terrible. Pasqua voulait terroriser les terroristes, lui veut fourbir les imams intégristes pour faire du tort à Marine. Il est tellement impressionnant. Il est tellement impressionnant qu'il a même réussi à obliger l'imam Iqiyoussen à s'expulser tout seul. C'est d'ailleurs la seule fois que je vois en France quelqu'un respecter son OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Bon, maintenant, il faut prier pour que les artilleurs russes et ukrainiens ne louchent pas trop, car à force de s'amuser à bombarder Zaporijja, ils vont finir par réussir à toucher la centrale nucléaire. Et là, à ce moment-là, je suis à peu près sûr que l'on n'entendra plus Sandrine Rousseau.
Bravo mon cher docteur Majid Seoussine, bravo pour ce billet d'humeur, bravo pour cet édito. On vous retrouve la semaine prochaine sans faute.
Avec joie. Et vous avez noté que pour déférer à une remarque de ma maman qui trouvait que je vous taquinais un petit peu plus, je ne vous ai pas pris à partie une seule fois.
Non mais allez-y, il n'y a aucun problème, il y a une relation très amicale, une relation d'amitié entre nous. Et d'ailleurs, j'embrasse votre chère mère qui est une fidèle auditrice.
Vous pouvez le faire, elle vous écoute sûrement.
Et ben voilà. Et ben écoutez, on l'embrasse. Merci mon cher docteur. Portez-vous bien. 18h34. Avec quelques secondes de retard. Pause pub. On se retrouve au 0153483000 et puis les débatteurs qui sont avec nous ici pour confronter leur point de vue avec les trois sujets d'actualité. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM. 18h-19h30. Les informés présentés par Adil Farkan.
Le temps file, chers amis auditeurs. 18h41, notamment. Avant d'accueillir nos auditeurs au 0153483000, je voudrais présenter le face-à-face. C'est parti pour confronter les points de vue sur trois sujets d'actualité. Boum !
Les informés. Le face-à-face.
Avec Ménad qui est avec nous. Bonjour Ménad.
Bonjour Adil.
Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Très bien. Comment dois-je vous présenter d'ailleurs ?
Ancien élu de Rosny-sous-Bois.
C'est ça.
Consultant en numérique.
Consultant en numérique. Bon, tout va bien ?
Très bien, et vous ?
Ménad Mézaïr. Non. C'est ça ? Le nom de famille ? Ouchenik. Pourquoi j'ai dit Mézaïr ?
Il devait confondre avec l'invité d'avant. Oulala. Il a pris.
Ça fait rire, ton pote.
2 mois de vacances. Là,
il a tout oublié.
Ah, non, mais ça y est. Vraiment. Non, Ménad, là, il faut que je. C'est Mehdi Jaziri. Non, mais ça y est.
Avec Mehdi. Si tu te plantes sur mon nom, c'est vraiment t'es mauvais parce qu'il n'y a pas plus banal. comme nom franchouillard.
Ménad, désolé.
Je vous en prie.
Ménad, c'est vraiment le genre de.
Tu sais, non mais Non, mais mon cerveau, il a décroché.
Je vais aller vous chercher un café, Adil.
Ouais, je crois. Mehdi Jaziri, comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Vous venez d'avoir une bonne nouvelle, vous, non?
Oui.
Toute nouvelle embauche.
Bravo. Ouais, nouvelle embauche, oui.
Il va produire des émissions sur une radio concert.
Voilà.
Bravo.
Merci beaucoup.
Thierry Vincent, le journaliste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Black Box. Bonjour Thierry Vincent.
Dans la tête des Black Box, vérité et idées reçues, édition de l'Observatoire.
Absolument.
Bonjour.
C'est bien parce qu'il fait bien mon métier, lui, et tu dis tout.
Ah, mais j'ai bossé la radio, hein, donc quand tu seras viré, je postulerai.
Mais moi, non, mais avec plaisir. Viré, t'es j'attends même pas d'être viré, tu peux y aller. Thierry Vincent, tout va bien?
Ouais.
Bon, et ben on va parler de ton livre et on va parler des trois sujets qui ont retenu notre attention dans une poignée de minutes. Je voudrais juste aller direction Saint-Étienne pour parler de ce fameux plafond de verre. Adèle, bonjour Adèle.
Bonjour.
Bienvenue mon cher Adèle, on vous écoute.
Merci, merci à vous. Je voulais répondre à, je crois, c'est Karim de Pantin, c'est ça?
Karim de Pantin, oui.
Voilà, donc Karim de Pantin, si ma mémoire est bonne, il nous disait, en gros, il incite les beurs, hein, les franco-nord-africains, à se tourner vers la Méditerranée, c'est ça? Parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas chez nous ici, c'est ça?
Oui.
Ben, je voulais juste donner, si vous voulez, mon son de cloche.
Allez-y, il faut y aller, vraiment, il faut y aller. Karim a lancé un pavé dans la mare, il faut en parler.
Karim, quand tu prends le métro à Paris, ligne 13, et qu'il est blindé, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses passer, tu rentres, tu prends ta place. Donc en fait, à l'inverse de Karim, nous, on est chez nous ici, on a grandi avec l'adversité, elle nous a construit, on s'est construit dans l'adversité, médiatique, sociale, ce que vous voulez, et du coup, on est pleinement français, et contrairement à Karim qui invite les autres à se tourner vers la Méditerranée, moi j'invite tous les franco-nord-africains et tous les franco, quoi que ce soit, de s'intéresser finalement aux sciences, au savoir critique, hein, à comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne les croyances limitantes dans le cerveau humain, pour justement casser tous les plafonds de verre. Et donc là, voilà, je ne sais pas si Karim est encore à l'antenne, j'aurais bien aimé avoir son retour, voir ce qu'il avait à dire après ces arguments-là, mais voilà, en tout cas, j'ai pas pu laisser, enfin, entendre une telle aberration quand même, ça m'a quand même un peu surpris, on va dire, de quelqu'un.
Adèle,
qui...
ça me rassure, oui. Adèle, quand même. Non, mais ça me rassure que, voilà, ça fonctionne. Ouais. Vous avez raison de le rappeler. Oh. Merci, Adèle, d'être intervenue.
Allez, merci à vous. Au revoir, merci.
Merci de votre fidélité. Belaïde de Paris. Bonsoir, Belaïde.
Oui, bonjour. Donc, bienvenue. Je voulais répondre aussi à Karim.
Allons-y.
Ça, son sujet. Enfin, je ne sais pas si son discours est fait pour faire le buzz ou pour faire parler de lui.
Non, je crois que c'est sincère. Non, la vérité, je pense qu'il pensait vraiment ce qu'il disait.
Bon, je voulais intervenir sur deux choses. D'abord, sur la place. Moi, je suis franco-algérien, je suis né en Algérie, j'ai vécu la première partie de ma vie en Algérie. Et je suis venu ici pour suivre des études et j'ai pris mon entière place ici en France. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc, je me considère pas comme quelqu'un d'intégré. J'ai ma double culture. Je suis pas désintégré. Ça, c'est la première des choses. On peut pas dire toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Je l'invite à aller faire un projet, quel que soit son projet en Algérie. Il verra les véritables barrières administratives. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est de un. De deux, je considère que ce discours, c'est ce qui a causé notre perte. Si en tous les cas, les générations passées ont participé à la vie de la société française, à la vie démocratique, s'ils avaient gardé leur nationalité après 62, on ne serait pas dans cette situation. Mmh. Voilà, on a toujours rejeté la culture française, alors qu'on y vit en France, on habite en France. Bon. S'il rejette cette culture, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore en France, qu'il reparte en Algérie. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bon.
Mais il ne peut pas dire que l'herbe est plus verte ailleurs.
En tout cas,
je connais parfaitement le monde économique ou la société en Algérie, en tous les cas pour l'Algérie. On est des facilités qui est en train d'être dite par Karim, hein. C'est pas possible. Ouais. C'est vraiment une aberration.
Je savais que ça allait faire, que ça allait provoquer un débat, effectivement, et c'est tant mieux, parce que c'est aussi les informés, c'est fait pour ça. Merci à Belaïd.
On vit dans une cité, on participe à la vie de cette cité, on a la possibilité de voter, on a la possibilité de se présenter, il ne faut pas baisser les bras. Oui. Sa place se prend. Elle se prend toujours, elle ne se...
Vous connaissez ma devise, hein. Vous connaissez ma devise, si vous êtes un fidèle auditeur. On ne lâche jamais rien.
Voilà. Ah oui, ma fille me dit toujours, je lâche rien.
Eh ben, elle a raison.
C'est sa chanson préférée.
Elle a raison.
Merci beaucoup.
Merci à vous surtout. Hassan du 78, et ensuite après on passe au débatteur. Hassan, vous nous appelez de quelle ville du 78?
De Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie, welcome Hassan.
Bonjour.
Bonjour à vous, bienvenue.
Ben voilà, moi je voudrais rebondir sur les deux personnes qui sont passées, Mohamed et Karim, je crois.
Oui.
Donc déjà sur Karim, c'est Karim, c'est ça?
Karim.
Lui qui disait qu'on n'était pas chez nous en France. Voilà, ben moi je me sens, sans en débattre pour autant, je me sens parfaitement chez moi en France. J'y suis depuis que je suis petit, je suis né en Algérie. Je suis 100% algérien, enfin 100% double nationalité bien sûr, mais je me sens à 2000% algérien avec toute ma fierté qui va avec. Je reviens aussi sur ce qu'a dit Mohamed juste avant, Mohamed.
Oui.
Donc, écoutez, il a parlé de fierté sur le changement d'un prénom. Bon, moi, il se trouve que je suis l'exemple type de la personne maghrébine qui a changé son prénom pour pouvoir...
travailler
sa vie.
Donc vous avez changé votre prénom pour pouvoir bénéficier d'un travail. Parce qu'auparavant, avec votre vrai prénom, vous aviez trouvé quelques, évidemment, difficultés.
Non, en fait, j'ai toujours bossé. Ça s'est déclenché un jour où je voulais rentrer dans une société, j'étais en poste, hein, dans une société, une bonne entreprise à notoriété, où j'ai vu une annonce qui correspondait parfaitement à mon profil. J'ai envoyé une candidature avec le prénom Hassan. Une deuxième, parce que j'ai pas eu de réponse. Une troisième, toujours pas de réponse. Donc j'en ai parlé à un ami qui m'a dit « Essaye de changer ton prénom, tu verras, parce que tu as le profil. » Donc j'ai changé le prénom, donc de Hassan, je suis passé à Axel. Mmh. Ça s'est pas fait par hasard, puisque Hassan, Axel, la consonance, quand on m'appelle, je réponds. Donc j'ai mis Axel, et j'ai eu instantanément un appel. Donc j'ai fait un entretien de 2h30, un autre entretien de 2h30.
Terrible, hein,
et un dernier,
d'entendre
et
ça.
Un dernier entretien... qui était pour justement me présenter à tout le monde dans l'entreprise. Et à ce moment-là, je devais donner mes papiers. Donc j'ai présenté ma carte d'identité française, bien sûr.
Oui.
Je l'ai brandie avec ma main. Et j'ai dit, écoutez, moi je ne m'appelle pas Axel, je m'appelle Hassan et je suis d'origine algérienne. Et donc le patron et la DRH se sont regardés et m'ont dit, ok, pourquoi pas. Et puis ils m'ont quand même pris. Bon, j'ai bien vadrouillé. Bon, je connais très très bien mon travail. Maintenant, je reviens sur ce que dit Mohamed. Moi, je suis vraiment algérien. J'ai fait l'armée en Algérie. J'ai été militaire sous le drapeau algérien. Je me sens mais très très algérien. Je parle le dialecte couramment, sans accent. Mais pour gagner ma vie, j'ai dû changer mon prénom. Et aujourd'hui. Donc j'ai changé de boîte il y a peu de temps et j'ai dû aussi continuer à m'appeler Axel. Mmh. Et entre-temps, j'ai essayé d'envoyer des CV avec le prénom Hassan et je n'ai jamais eu de réponse. Mmh. Dès que je mets Axel,
voilà une réalité.
Avec mes références, ça passe tout de suite. Mais j'ai un entretien à...
Ben, je l'entends. Je l'entends ça, Hassan. Je l'entends.
Voilà.
Et vous savez quoi? Merci de nous avoir fait part.
Ça peut choquer beaucoup de gens. Les gens peuvent se dire, il a pas de fierté.
Non, je crois pas que c'est une histoire de fierté. Je suis pas sûr. Non, je suis en bas.
Maintenant, je dois gagner ma vie, je dois vivre. Et je pense que c'est la seule manière. Et je reviens aussi sur le racisme en France, il est bien réel. Il est bien là. Et c'est pas seulement les décideurs. Il y a des patrons. Qui sont aussi décideurs, mais c'est pas les gens qui tiennent les postes qui décident. C'est les patrons qui décident. Et c'est les patrons qui bloquent tout le monde.
Merci.
Voilà.
Merci, mon cher Hassan, d'être intervenu avec votre témoignage.
Je vous en prie. Je
merci. Ça fera réagir au 0153 48 3000. Merci de votre fidélité. Merci. On marque la dernière, la pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Ménad, Mehdi, Thierry, les trois pour confronter trois sujets. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Non, en fait, ils ont retourné la tête.
18h55, si vous venez de nous retrouver, c'est parti, jingle le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Mélade est avec nous, Mehdi est avec nous et Thierry Vincent qui a écrit un livre qui va en toucher quelques mots avec nous justement. Je vous accorderai un peu plus de temps ici, on prendra le temps d'en parler notamment, mais je voudrais quand même tout de même. Les Black Box, c'est quoi et comment est née cette aventure justement?
Alors, les Black Box au départ, ça vient...
Bien dans le micro, si vous avez fait de la radio, vous connaissez.
J'ai oublié, attends, je pardon.
Il va falloir revoir.
Black Bloc, d'abord, c'est en fait une... C'est pas les individus qui composent le Black Bloc. Le Black Bloc, c'est le bloc, en fait. C'est-à-dire que c'est la technique de manifestation qui a été inventée en Allemagne au début des années 80. En fait, au départ, c'était pour empêcher les expulsions de squatteurs, donc pour ralentir les charges de la police, voire les repousser. Alors, c'était hyper organisé. C'est là que c'est né. Et petit à petit, ça a traversé l'Atlantique. On les a vus à Seattle, où ils ont carrément... On a dû écourter le sommet à cause des désordres créés par les Black Blocs. Il y a eu Gênes, où là, bon, ça s'est terminé dramatiquement parce qu'il y a eu un mort. Et puis, petit à petit, ça a essaimé un peu partout. Et disons que c'est arrivé vraiment, vraiment massivement en France en 2016. Et ben, maintenant, qui dit manifestation, dit Black Bloc, plus ou moins. En tout cas, il y a toujours un bloc qui se forme, donc en noir, cagoulé, qui casse, grosso modo, qui casse des banques et qui se bagarre avec...
Ils étaient très présents, rappelons à nos auditeurs, très présents, et d'ailleurs on les avait vus, hein, c'était des images très fortes, en pleine crise sociale avec les Gilets jaunes.
Alors, ah oui, ça c'est un peu particulier, mais ça a été un tournant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les Gilets jaunes, c'est au départ des gens pas vraiment politisés, c'est un peu confus, ils savent pas, ils n'ont jamais voté, ils n'ont jamais vu, ils avaient voté Bayrou. T'as aussi des gens d'extrême droite, hein, des vrais fachos, nazillons, etc. Et t'as des gens d'extrême droite, enfin, un peu de tout. Et en fait, parce qu'ils sont très malins, les Black Blocs. Ils sont allés voir les Gilets jaunes et leur ont dit, écoutez les gars, nous on sait faire, si vous avez des problèmes avec la police, nous on sait se défendre, on sait comment faire pour les attaquer, c'est votre manif, allez-y. Et effectivement, ils les ont aidés parce que c'est vrai qu'il y a une répression terrible qui n'était pas très maligne, parce que le pouvoir était complètement désemparé face à son vent qui venait nulle part. Et donc, il y en a qui ont rejoint le bloc. Et maintenant, effectivement, alors, tous les Gilets jaunes, c'est très compliqué, hein, les Gilets jaunes, mais une partie des Gilets jaunes se sont radicalisés et ont rejoint le bloc, ce qui a complètement, je sais pas si on peut développer là, mais ce qui a complètement changé, en fait, la physionomie du bloc.
Et pourquoi consacrer un livre concernant donc les Black Blocs?
Bah parce que on dit n'importe quoi dessus. C'est-à-dire qu'on dit que Black Bloc et casseur, c'est la même chose. Mais c'est délirant de dire ça. Tu demandes à la police, à Alliance, le syndicat le plus droitier, il va te dire que c'est des militants politiques, les Black Blocs. Le casseur, c'est quelqu'un, il n'en a rien à foutre de la manif, il se dit, il va y avoir du désordre, je vais pouvoir piller, je pourrais éventuellement, parce que j'ai cassé du flic, c'est-à-dire, le Black Bloc, on en pense, je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais il fait un acte politique en... Peut-être que c'est idiot, en cassant ce qu'ils considèrent à tort ou à raison comme les symboles du capitalisme. Voilà, c'est ça en gros.
Eh bien, ça donne envie. Vous pouvez rappeler votre livre et l'éditeur?
Ah, les éditions de l'Observatoire. Et d'ailleurs, je les remercie au passage parce que je tiens à le dire, j'ai écrit dans une totale liberté, aucune censure, rien, vraiment très très agréable. Et
le livre s'appelle...
Merci beaucoup. Hein,
le livre s'appelle...
Alors, dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues.
Alors, voilà. Vous savez ce que je vous propose, Thierry Vincent?
Oui.
C'est que je prenne le temps de lire votre livre. Parce que je déteste, moi, si vous voulez recevoir quelqu'un dont j'ai pas pris connaissance, évidemment, de...
Il y en a plein, hein, qui te font à la télé, hein.
Non, moi, j'aime pas. C'est pas ma cam. Non, mais moi, je fais pas partie de cette case.
Non, mais tu as raison.
Voilà, je préfère prendre le temps, lire, et ensuite après.
J'en ai un pour toi.
On consacre 15-20 minutes.
Oui, y a pas de problème.
Thierry Vincent, vous êtes là aussi pour confronter votre point de vue.
Ah oui.
Alors c'est parti, vous savez quoi, premier sujet, c'est celui de l'assurance chômage. Eh bien ce qui change, qui fait, mais en tout cas ça fait débat. Ça fait débat au point où justement les réformes sont contestées un peu partout, notamment par les acteurs politiques. Parlons-en, Ménad.
Alors, la réforme du chômage, on en est à la deuxième sous Macron, mais ça fait pas mal de temps effectivement qu'elle se succède.
L'objectif, c'est quoi? C'est le plein
c'est
emploi.
C'est la deuxième, oui. Premier quinquennat, et là, la seconde.
L'objectif, c'est le plein emploi. En gros, c'est 5% en général de chômage. Ça, c'est l'objectif, c'est l'horizon. La réforme, j'ai envie de dire, c'est le guidon. Et en l'occurrence, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde, effectivement, alors, sur cette réforme qui n'est pas encore née, qui n'est pas encore faite, on a déjà des gens qui disent « moi, je serais contre, moi, je serais pour », etc. Alors même qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu le travail parlementaire à la hauteur, puis il n'y a même pas eu le travail, j'ai envie de dire, d'analyse ou de décryptage, parce qu'on n'est pas tous experts dans ces domaines-là. Donc, cette réforme, moi, j'attends de voir comment elle va se construire, même si on a les grandes lignes, mais n'enterrons pas, et là, encore une fois, on en a déjà parlé ici, mais... on s'en remet, on espère cette fois que le travail parlementaire, que les parlementaires, je parle autant de l'Assemblée nationale que du Sénat, vont pouvoir s'entendre un tout petit peu mieux que d'habitude.
Mais c'est quoi l'enjeu de cette échange? C'est quoi l'enjeu de cette réforme?
Mais l'enjeu, c'est que les gens bossent.
Les gens bossent.
Ceux qui veulent bosser, bien entendu, puis ceux qui peuvent pas bosser, qui sont entre deux boulots ou qui sont au chômage pour des raisons, qui puissent être indemnisés correctement.
Thierry Vincent, oui.
Non, mais arrête. On peut être en transition.
Alors, justement. Attendez.
Dans ce cas-là, il faut être bien indemnisé. Faut pas être dans le.
Un chômeur sur deux n'est pas.
Thierry Vincent.
Bien sûr.
Vous avez dit quoi? Un chômeur sur deux?
Un chômeur sur deux n'est pas indemnisé.
Ça, c'est vrai.
Il y a moyen de 700-800 euros. Dire qu'ils veulent rien foutre et que c'est par plaisir. On sait très bien que c'est pas vrai. Le plein emploi, c'est du bidon. Un million d'offres d'emploi.
C'est un objectif.
Vous allez travailler dans le bâtiment,
c'est un objectif.
Moi,
absolument.
À 56 ans, je vais aller travailler dans le bâtiment. Et moi, à cause de la première réforme Macron, j'ai peut-être perdu mes droits. Mais vous vous rendez compte? Excusez-moi, mais je suis comme ça. Un peu. Allez, on est dans une radio. Méditerranéenne, on va dire. Mais je comprends pas que vous disiez ça, monsieur. C'est pas possible que vous rayiez dans des choses pareilles. Vous savez ce que c'est qu'un chômeur. Mais vous croyez, vous avez déjà vu un chômeur heureux, vous? C'est vrai qu'il y a des gens en transition.
Non.
Mais c'est pas du vrai chômeur. Cette réforme, c'est du bidon. Les 1 million d'offres d'emploi.
Voilà, c'est ce que je dis. Elle est déjà enterrée alors que. Ah bon, finalement, on n'a pas eu d'analyse, de concertation, de discussion.
Qui sortent du chômage. Moi, je vais peut-être sortir du chômage, monsieur. Peut-être que j'aurais plus le droit. Et je ne comprends pas que vous disiez ça. Il n'y a aucun syndicat.
Pourquoi vous ne la comprenez pas? Pour quelle raison? Pourquoi ça vous met dans cet état? Pourquoi ça vous met en colère? Pourquoi ça vous met dans cet état?
On est en train de taper sur les pauvres encore. C'est-à-dire qu'ils foutent rien. Il y a 1 million d'emplois. Ouais. Moi, vous croyez qu'à 56 ans, que j'ai jamais été dans la restauration? Vous croyez que. Allez-y, monsieur, bosser dans la restauration.
Je l'ai déjà fait.
Allez sur un chantier.
Mon sujet n'est pas de dire si la réforme est bonne ou pas. Regardons ce qu'il y a dedans. Les syndicats, effectivement, pour beaucoup, se sont élevés tout de suite et déjà, d'ores et déjà contre cette réforme. Le seul syndicat qui est d'accord, c'est le MEDEF, accessoirement. Donc bon, on peut se douter que ça ne va pas forcément que et d'abord dans l'intérêt des employés. Mais l'idée étant que les syndicats fassent leur boulot, que le MEDEF, que les syndicats autres que le MEDEF des employés fassent leur boulot et qu'on arrive à un texte qui soit, j'ai pas envie de dire consensuel parce que c'est utopique, vous allez encore décoller. Non, mais en revanche, arriver à un texte où tout le monde soit un peu content, mais pas.
Alors, dans l'ordre, Thierry vous répond, Thierry Vincent vous répond, le journaliste, et ensuite Mehdi Jaziri. Allez-y. Dans le micro.
Les bras m'en tombent, monsieur, ce que vous dites. On fait du en même temps. Aucun syndicat n'en veut, même pas la CFDT. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il dit, ok, négocier, mais en fait, il faut arriver à ça. Mais c'est du foutage de gueule.
Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Allez,
Les gens arrêtent d'emmerder les chômeurs. Regardez, les indemnités chômeurs, monsieur. Je crois que c'est 6% autour de ça, l'inflation. Nous, je dis nous, parce que moi, je suis journaliste, mais je suis aussi chômeur. Essayez de faire gagner votre vie à la pige, monsieur. Vous allez voir, vous savez combien c'est payé un article dans le Nouvel Observateur? Je dis, c'est pas les pires, hein. Peu importe, dans n'importe quel. C'est 200 euros. Comment vous voulez vivre avec des piges? Vous pouvez pas, on est obligé de faire un autre boulot. Mais vous êtes complètement, mais complètement à côté de la réalité. Vous savez pas ce que c'est qu'un chômeur. Vous ne savez pas. Voilà.
Mehdi Jaziri.
Coucou, c'est le journaliste un peu plus modéré.
Bonjour. Non, mais c'est pas grave, il faut de tout.
Non, mais alors moi je vais.
Jeune journaliste.
Alors moi, oui, le jeune journaliste, c'est bien précisé. Alors moi je vais dire tout simplement que, bon, je vais pas dire que c'est un échec avant d'avoir déjà vu concrètement ce que ça va donner. Je suis juste un peu perplexe. Pourquoi? Parce que quand on parle de plein emploi, il faut savoir aussi les conditions, etc. On sait qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a effectivement joué sur les mots, hein, en parlant de la baisse du taux de chômage, etc. Autre chose. Moi, il y a une chose qui me pose un peu problème, c'est cette espèce de tri entre ceux qui veulent travailler, ceux qui vont trouver du travail, ceux qui sont en recherche, etc. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous dans les mêmes conditions, qu'il y a aussi un passif, et il faut comprendre un truc, c'est que ça remonte même à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui, depuis des années, travaillent dans un montent dans un milieu qui ne les ressemble pas, qui n'aiment pas, parce qu'à l'école, justement, on n'a pas eu cette approche d'écouter l'étudiant, de voir qu'est-ce qu'il veut faire vraiment, voilà, l'éducation. On sait très bien qu'il y a un énorme problème avec l'éducation, et ça fait qu'au final, bah, jusqu'à maintenant, des hommes qui peuvent avoir même 50, 60 ans ont des problèmes encore avec leur travail. Donc, c'est très difficile quelquefois.
Mais ce que soulève Thierry Vincent, oui, franchement, est partagé quand même.
Bien évidemment, je suis pas en train de dire qu'il a tort dans tout ce qu'il dit. Je suis juste en train de dire que.
Qu'est-ce qu'on fait pour le plein emploi? On fait quoi, justement? Qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour créer le plein emploi? La question, elle est là. Moi, je pense
que ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de. Je sais pas si ce qui va être fait, parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les données de cette réforme.
Merci.
Mais, je pense que ce qu'il faut faire, là où il faut aller, c'est vraiment aller vers le cas par cas, c'est-à-dire l'accompagnement. Pour régler ce problème-là, il faut accompagner les gens. Il faut pas leur dire, bon, bah, si tu veux pas, chercher du travail tout de suite, tu vas perdre ton chômage. Là, ça, c'est dangereux, parce qu'au final, on a des personnes, on sait pas trop comment ça se passe. On a déjà vu plein de fois, même chez les fonctionnaires, on va dire des écarts. On sait très bien comment ça se passe quand on va à Pôle emploi. Il y a très peu de personnes qui finalement sont totalement contentes. Voilà.
Non, dans le micro, Thierry Vincent, il ne faut pas dire que tout le monde est incompétent.
Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui peut-être font mal leur travail, que d'autres ont plus de difficultés et que la situation n'est pas facile. Si les choses étaient faciles et que les gens travaillaient à Pôle emploi, quel bonheur de trouver un travail pour une personne qui a des difficultés.
Thierry Vincent, et ensuite Ménade, et on passe au second sujet.
J'arrête de jouer l'excité de service. Pardon, Ménade, mais.
Plaisir.
Non, c'est pas une question d'excité, c'est une question de réalité.
On est là pour ça.
Mais écoutez, non, mais c'est parce que le chômage, parce que là, moi, je sais pas si je vais avoir mes droits. Parce que avant, c'était 4 mois en 2 ans, avec ce personnel extrêmement brillant intellectuellement qui est Macron, là, ça passe à 6 mois. Moi, je suis entre les deux. Mais
c'est alors, son.
Et puis, je sais même pas ce qui marque mes employeurs et tout. Et donc, ça m'énerve. Ça fait 4 fois que je téléphone à Pôle emploi. Alors, est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Je suis dans le cas particulier, c'est vrai.
J'ai dans le micro.
J'ai dit réponse différente. Et alors, je sais pas combien de jours moi j'ai travaillé, je suis à la pige, j'en sais rien moi. Et voilà, il y a 10 réponses différentes. Et là, c'est le fonctionnement de Pôle emploi. Je voulais pas parler de lui, mais il y a un monsieur qui s'est fait tirer, par exemple. On va le citer parce qu'c'est une autorité publique. Yann Gaudin à Rennes, le gars, il s'est fait virer simplement parce qu'il a fait son boulot. Il a signalé, par exemple, à des intermittents du spectacle de Bretagne qu'ils avaient droit à une aide. Qu'ils n'avaient pas dit au fait, vous avez droit à une aide, c'est ridicule, hein, 150 euros, et on l'a viré à force de harcèlement. Etc. Donc déjà, alors c'est pas ça qu'il va régler le problème du chômage, mais déjà, il faudrait que ce Pôle emploi marche bien. Je sais pas si vous avez déjà appelé à Pôle emploi, si vous avez déjà été dans cette situation. Mais...
C'est extrêmement compliqué, absolument. Non, mais je confirme, mais naturellement.
Mais
l'intérêt de réforme, il faut réformer. Pardon, d'enfoncer une porte ouverte, il faut le réformer. Et puis accessoirement, il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit, parce que là on parle d'un métier qui est effectivement le métier de la presse, mais on a des réalités différentes déjà d'un métier à l'autre. Parler du bâtiment, de la restauration tout à l'heure, mais on peut aussi parler d'autres corps de métier, mais d'une région à l'autre aussi, Adil. Et puis je pense à nos amis ultramarins. Parce que le chômage là-bas, tel qu'on connaît ici et là-bas, il est encore plus important.
Il n'est pas compté dans les chômages.
En l'occurrence, c'est mon point. C'est que la manière dont on compte, la manière dont on définit un chômeur au sens du BIT ou au sens de Pôle emploi aussi, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, une réforme dans les grandes lignes, pardon, mais qui dit qu'on a un truc peut-être un peu plus flexible quand ça va bien et un peu moins quand ça va pas bien, dans l'esprit, ça va. Maintenant, aux parlementaires et aux législateurs, d'une manière générale, de faire son boulot, et notre énergie, elle devrait pas être avec les syndicats, se taper dessus. Ça serait de mettre une pression saine sur le législateur, le représentant quand même, pour qu'ils arrivent à un texte qui soit le plus consensuel possible, et puis qu'on arrive enfin à réformer ce chômage. Quitte à le réformer dans 2-3 ans, on s'en fiche, mais avançons sur cette question, que les gens arrêtent de galérer naturellement, qu'ils soient sous-indemnisés ou autre. La question, elle est là, c'est comment on arrive au plein emploi en laissant personne sur le bord de la route. C'est pas mon métier, mon moi, etc. On n'y arrivera jamais si on pense pas globalement.
C'est beau ce que vous dites.
Messieurs, autre sujet, c'est celui d'un nouveau rebondissement judiciaire dans l'affaire concernant les fausses accusations visant Alexis Corbière, le député, et Raquel Carrido. Eh bien, Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue ce matin, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, après avoir été interpellé à son domicile. Et puis cette garde à vue intervient, vous le savez, à un moment où l'enquête de fin juin dernier a été confiée à la RDP, nous a confirmé le parquet de Paris. Bon, moi je suis pas là pour commenter évidemment la justice, simplement dire, bon, les fausses accusations contre Raquel Carrido, Alexis Corbière, Lagarde placé en garde à vue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors déjà, pour la, moi je dirais la famille Garrido, c'est gravissime et quelque part ils sont, c'est les premières victimes de cet article de presse. Ensuite, effectivement, concernant le point qui a quand même publié ça. Alors, on parlait de pige tout à l'heure.
On parle quand même d'une enquête pour escroquerie. Hein.
Certes, mais la justice là-dessus fera son travail.
Oui, c'est la justice.
Les responsabilités seront établies. Mais
c'est la justice. Vous
on
avez
a
raison.
Une famille. On a une. Moi, je parle même pas des parlementaires. C'est pas les. C'est la famille Garrido qui a été visée là-dessus. Et
le couple. Le couple.
Le couple. Mais ils ont des enfants aussi. Enfin. Parce qu'il était question aussi de nous, etc. C'est, on peut avoir une pensée pour eux, mais au-delà de laisser la justice faire son travail, regardons aussi l'ensemble, parce que là, il y a une espèce de focus sur Jean-Christophe Lagarde. Il y a quand même eu un article de presse avec un journaliste qui l'a écrit, dont les sources, certes, bien sûr, secret des sources, hein, c'est pas là. On
bah, met il
pas
les a balancées, ses sources, on met pas ça en question, mais. Il viole toute la déontologie,
En l'occurrence, d'un point de vue déontologie, elle est là, l'affaire. Elle est sur la déonto, absolument. Elle est sur la chaîne éditoriale.
Vous faites référence au journaliste.
Et arriver à faire un article.
Je vous donne la parole, Thierry.
Qui a failli sortir avant le second tour des législatives, ce qui aurait été une fake news qui influence une élection. Alors on est les premiers, pardon, mais à gueuler quand ça se passe dans d'autres pays, là ça se passe dans le nôtre. Genre, entre guillemets, j'ai envie de dire, heureusement, il est sorti après, effectivement, les élections et ça n'a vraisemblablement pas affecté le résultat. Mais pardon, l'affaire, moi, la garde là-dedans, personne, l'affaire, elle est sur le point.
Et
oui,
pour
moi, c'est l'affaire Le
c'est
Point.
C'est le point pas, journaliste.
C'est l'affaire Le
c'est
Point,
le journaliste
c'est pas l'affaire Lagarde.
Qui est salarié pour
absolument.
Le Point.
Absolument.
Vous faites référence à Aziz Zemmoury.
Entre autres, oui.
Alors, en même temps, on n'est pas en train de balancer. On parle d'Aziz Zemmoury, qui est le journaliste du Point partout.
C'est lui qui a signé l'article.
Oui.
Aziz Zemmoury, c'est quelqu'un qui est une crapule. Je le dis franchement.
Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Je ne peux pas me permettre de dire que le journaliste, c'est une crapule.
Je vous le dis.
Il y a une enquête.
Il y a une enquête. Donc, laissons le travail de la justice faire.
Non, mais il y a une enquête. OK. Mais regardez ce mec. Au milieu des années 90, vous savez ce qu'il a fait ? La preuve par l'image. Il fallait du spectaculaire. Il fallait montrer qu'en banlieue, quand même, il n'y avait que des méchants noirs et arabes qui avaient des armes et qui pensaient qu'à faire la guerre civile. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars ? Vous le savez ou pas ? Ce gars, c'est avéré, il l'a reconnu. Il paye les mecs de la cité pour poser avec des armes. Et non, les mecs de la cité, les lascars, ils ont l'humour, ils ne sont pas mauvais.
C'est avéré ?
Ils ont balancé.
C'est avéré ?
Oui, ben bien sûr.
Et c'est quoi les sources ? Hein ? Les sources ?
Ah, mais si tu regardes sur Internet, c'est partout. Il a
oui, mais après, Internet, ça dit beaucoup de conneries aussi.
Je sais plus, j'ai plus en tête. Ouais, qu'il me fasse un procès si. Non, mais c'est je crois qu'il l'a reconnu. Hein. Oh, mais j'en ai rien à foutre qu'il me fasse un procès. Moi, je dis que ce type-là est une crapule, indigne d'être journaliste, indigne. On sait, mais je vous dis, dans la profession, tout le monde sait que ce type raconte n'importe quoi. Et alors, le plus scandaleux, écoutez, vous avez Jean-Christophe Lagarde. Je vais pas parler de lui parce que lui il veut.
On n'est pas là pour parler des Zemmoury. Il a signé l'article effectivement, mais bon, après ça n'engage que vous effectivement lorsque vous dites qu'il est crapuleux, etc.
Non, mais je veux dire, quand vous êtes journaliste, vous avez l'adversaire politique de quelqu'un. C'est pas une question de bord politique. Hein. Ça aurait pu être l'inverse. Vous avez l'adversaire politique de quelqu'un qui dit ah ouais machin, il fait travail au noir. Et vous vérifiez deux fois plus quand même. Mais Aziz Zemmoury, il est connu dans tout le milieu, tout le monde sait. Voilà ce que je dis. Moi, sauf que je suis le seul peut-être à le dire. Il peut me faire un procès. Hein, voilà, Thierry Vincent, il dit Aziz Zemmoury est une crapule depuis des années, et je m'étonne qu'on laisse encore travailler.
C'est Thierry Vincent. Les propos de Thierry Vincent n'engagent que évidemment. Allez.
Coucou, c'est le retour du.
Allez-y, parlez, dites pas coucou.
Je veux dire clairement, en fait, juste.
On n'est pas là pour faire coucou. Allez-y, il faut débattre.
Alors moi, je pense qu'il faut modérer un peu le truc justement. Je vais insister là-dessus parce que Aziz Zemmoury, bon, ce que vous dites, ça m'engage encore une fois que vous. Moi, j'attends de voir les sources de ce que vous avez dit. Personnellement, je ne peux pas me permettre de faire de la diffamation, surtout sur un confrère journaliste. Et je vais dire quelque chose concernant cette affaire-là. Pour moi, il y a pas que le journaliste qui est engagé, il y a aussi les sources. Parce que je pense que si, quand on est une source, oui. Excusez-moi, moi je suis journaliste, j'ai des sources aussi, des gens, je dévoile jamais leur
nom. Un peu comme vous, je connais un peu Aziz Zemmoury, il a dénoncé ses sources.
Il faut connaître aussi la responsabilité d'une source qui vient et qui donne des informations. Peut-être que Aziz Zemmoury a fait une erreur, très certainement. Et puis, excusez-moi, le point a présenté son erreur, oui, mais. Aziz Zemmoury a tout de même signé l'article de son nom.
C'était en juin un article du Point écrit par le journaliste Aziz Zemmoury qui accusait indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papier. Et attendez, s'il vous plaît, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti fermement, tout est faux, j'ouvre les guillemets, avait-il affirmé. Donc, Bon, fait très rare, l'article avait été retiré dès le lendemain. Je rappelle, je suis factuel. Dans une adresse adressée aux lecteurs du Point, le journal avait admis que l'article s'était révélé faux et mensonger. Le journaliste Aziz Zemmoury avait lui-même déposé plainte contre Jean-Christophe Lagarde, ancien député et président de l'UDI, battu donc au second tour des législatives. Je rappelle, là je suis plus factuel, et contre un policier. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai tout livré, et maintenant on attend effectivement, comme on l'a rappelé, c'est à la justice de trancher.
14h, 19h, 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 19h,
Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Juste des points de désordre. Débat toujours animé 19h22 avec Ménad Ouchenir, avec Mehdi Jaziri, avec Thierry Vincent qui est remonté. Il a bien raison effectivement d'être remonté. Bah voilà, il expose, c'est aussi ça les informés. Dernier sujet, messieurs, le carburant, prise d'assaut depuis ce matin des stations Total. Ont-ils une crainte, ceux qui nous écoutent, qu'il n'y ait plus d'essence, tout simplement? Est-ce qu'on va droit vers une pénurie, Thierry Vincent?
Eh ben, oui, si tout le monde anticipe une pénurie, ben, il y aura pénurie. C'est un peu comme pendant le confinement. Moi, ça me gonflait quand même de voir ils achetaient 20 paquets de pâtes tous, 40 kilos de PQ. Mais c'est la même chose.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on anticipe une pénurie, donc on la crée. Il n'y aura pas de pénurie de pétrole en France. La Russie nous fournit essentiellement du gaz.
Je vais vous dire, Chalon-sur-Saône, les stations de Total Energy prises d'assaut.
Mais c'est une panique.
Pathétique ou pas, j'en sais rien, ça c'est aux auditeurs de le dire. Les automobilistes ont voulu profiter d'un prix qui n'avait pas été aussi revu à la baisse.
Prix, oui. Parce qu'ils ont fait un prix, parce qu'effectivement c'est moins cher, donc ils y vont, mais il n'y a pas de risque de pénurie de pétrole en France.
Bah si, les stations Total l'ont annoncé quand même. Il y a quelques stations Total qui risquent de fermer.
Total. Oui, d'accord.
Qui risquent de fermer.
En France, globalement, le problème c'est le gaz plutôt.
Oui.
La Russie, c'est du gaz qui nous fournissent.
Et l'électricité.
D'où l'électricité, tout à fait. Mais le pétrole, bah, c'est plus l'Algérie, le pays du Golfe, etc. C'est le pétrole russe, on a...
Norvège, Algérie, Qatar.
Moi, je vais rejoindre ce que dit monsieur. Moi, personnellement, je trouve que, en fait, on en fait un peu trop. Dans le sens où on nous a, pendant tout l'été, pendant le début de la guerre en Ukraine, on s'est dit, ah, ça y est, on va être coupé de tout, on va plus vivre. J'ai même eu des personnes, je me rappelle une fois un débat avant les vacances, où je sais plus qui est-ce qui venait et qui nous disait qu'en fait, ça allait être le gros bordel, qu'on avait des gens qui allaient tomber dans la pauvreté, que ça allait être très difficile, on va avoir une crise sans précédent. Oui, on va avoir une crise. Mais on est quand même la France, excusez-moi. Enfin, on n'est quand même pas un pays en sous-développement. On est quand même bien développé. On saura quand même se préparer un minimum. Non, mais il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est la fin du monde. Stop.
C'est vrai.
Non, mais au bout d'un moment, on a fait ça pour le Covid. Là, on a fait ça pour la variole du singe. Puis après, là, on va faire ça pour le pétrole. C'est quoi la suite? Non, mais vraiment, c'est quoi la suite?
Mélade.
Et avant ça, c'était les gilets jaunes. Et avant ça, voilà, chaque fois, donc tout est scénario apocalyptique.
Et
effectivement, ça, il y a des vibes de 2020 là, de Covid avec ces histoires. Alors, tu parles des pâtes. Moi, je me rappelle de la ruée sur le papier toilette. C'est quand même bon. Effectivement, je rends parfaitement ce qu'il y a dit, c'est que c'est des fausses pénuries. Il y a pas de pénurie, c'est en l'occurrence. Et puis, ce qui est un peu bête, c'est qu'une fois qu'on a fait le plein de sa bagnole, on va rouler pareil, donc on aura besoin d'essence plus ou moins au même moment. Donc, ça se stocke pas, contrairement aux pâtes, par exemple, en très grande quantité l'essence. Donc, il y a quelque chose de parfaitement irrationnel.
C'est dangereux si on sait pas.
Faut redescendre, bien sûr. Et là, tout le monde apprend à prendre, comme disait Madame Hidalgo, un grand bol d'air et à réfléchir un peu à ce comportement-là. Moi, j'ai juste une pensée pour les personnes qui ont acheté des voitures électriques. En particulier à l'époque où l'électricité était beaucoup moins chère et qu'on arrive quand même à une période où on va peut-être avoir une recharge de batterie qui va être plus chère qu'un plein d'essence. Et vraiment, là, pour le coup, moi, j'ai une pensée amicale, émue, je sais pas, mais pour tous les propriétaires de voitures électriques qui, avec une augmentation, je crois, aussi un peu artificielle des prix de l'électricité, vont se retrouver. Alors, non, bon, certes, en émettant peut-être moins de CO2, mais en faisant pas forcément les économies qu'ils faisaient au début.
Thierry Vincent?
L'État devrait peut-être faire son travail pour le coup, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps de transition écologique, il y a urgence, il faut le faire très vite. Ben là, il faut faire quelque chose pour que
ceux qui sont entre guillemets plus vertueux, parce que peut-être ils ont les moyens aussi, hein, c'est payent pas plus que ceux qui prennent l'essence. On devrait pouvoir rouler en électrique moins cher qu'à l'essence, quelle que soit la situation. Là, pour le coup, faut pas laisser faire le marché. Il y a une transition écologique, une nécessité écologique, c'est martelé par tout le monde. Et là, je trouve que c'est, ce que vous dites est un cas emblématique. On peut pas laisser faire une situation pareille, quoi.
On voit là une bonne idée de réforme, du coup, et qui est pas enterrée déjà avant son.
Allez, ça c'est création. Vous me ferez plaisir.
Moi, j'aimerais juste
ajouter un truc aussi sur les. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les médias de manière générale, on a aussi une responsabilité. Je m'adresse cette fois-ci aux médias, comme aux influenceurs aussi, qui touchent énormément de personnes et aussi à certains complotistes sur les réseaux sociaux, on les connaît. Voilà. En fait, il faudrait dire quelque chose, c'est que il y a des gens qui gobent tout. Voilà. Oui. Et en fait, il y a une énorme responsabilité parce que on réagit chacun différemment aux informations. Là, c'est un exemple, mais Adil, on va avoir d'autres situation comme celle-ci, c'est sûr et certain. On a eu des comportements ridicules pendant la crise sanitaire. On va en avoir pendant cette crise-là. Il y a même des gens qui ont acheté des bunkers, je crois, par rapport à la guerre, parce qu'ils se sont dit ça y est, ça va être la fin du monde. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on en est là, quoi? Donc, en fait, si vous voulez, il faut que les gens comprennent qu'on a une responsabilité quand on s'adresse à un public, que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, particulièrement même sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'adresse quelquefois à un public beaucoup plus jeune et qui a du mal quelquefois à intercepter les informations. Il y a des chaînes de télévision qui font de la qualité, mais qui malheureusement, dans leur qualité, nous montrent qu'une partie de l'information. Voilà.
C'est donc pas de la qualité.
Non, mais oui, non, mais quand je dis, c'est traité de manière objective, en respectant la déontologie du journaliste, mais il n'y a qu'une partie de la vérité. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut respecter justement toute la vérité. Il faut montrer aux gens comment se passe justement cette situation. Et montrer justement aux gens comment faire ses armes face à cette
Thierry,
période.
D'une phrase.
Non, je voudrais remercier Ségolène Royal qui nous a fait un magnifique sketch complotiste. Inouï. Il y a des gens qui spéculent derrière, qui voulaient la guerre en Ukraine. Merci Ségolène. Qu'est-ce qui lui a pris le... Je sais pas quel produit elle a pris. Ben voilà, mais en tout cas,
elle est peut-être complotistes... Non. Je pense qu'elle est influencée par quelqu'un.
Qui?
Bon, on sait pas.
Ah, Bill Gates, c'est Illuminati.
Thierry Vincent, merci.
Merci.
Vous reviendrez?
Ah, avec plaisir.
Partagez. Mehdi Jazeri, à bientôt.
À bientôt.
Melad Ouchenir, je me plante pas.
Vous l'avez bien dit cette fois.
Absolument.
Bravo.
À bientôt.
Avec plaisir.
Rayad, rigolez pas. Hein. Attention, hein, je vous souris.
Le mec, je crois qu'il n'a jamais plus rigolé.
Non, mais il va venir. Non, mais qui fit la raison. Merci. Time Sport ce soir. Le programme est riche avec Bilal Nedman ce soir de 20h à 21h. Attendez, je vais vous donner son programme parce que notamment il va parler de. Il a eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je vais quand même vous en parler. Bilal Nedman ce soir, eh bien, son programme, le programme qui vous attend. Mbappé qui répond sur le terrain. Des cris de singes et des saluts nazis au parc. Marseille rentre en campagne. Bref, c'est le sujet qui vous attend ce soir. Ça se passe dans Time Sport de 20h à 21h. Riche programme.
Oui. Il parle pas de char à voile.
Si, on va en parler justement.
Je veux dire un truc, c'est que j'emmerde les fachos qui font des saluts nazis, c'est une honte.
Voilà, c'est une honte, absolument.
En prison.
À demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.